Comme les heureux retraités, dès votre entrée dans la vie active, pensez à assurer vos vieux jours chez Suno Assurance, qui vous propose priorité santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Tous les ans, elle est au rendez-vous, parfois dès l'automne. D'autres années, elle attend le cœur de l'hiver pour se déclarer. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous parlons de la grippe saisonnière. Infection virale, aiguë, contagieuse, souvent considérée comme une maladie banale, en dépit de sa gravité potentielle. Et en ces derniers jours du mois de février, de nombreuses hospitalisations en France sont directement liées à l'épidémie de grippe. Le pic a été atteint dans toutes les régions de France métropolitaine, c'est ce qu'indiquait dans son dernier bulletin hebdomadaire l'Agence Santé publique France. L'épidémie semble marquer le pas en termes de consultations comme de passage aux urgences. Et c'est pour nous l'occasion de nous arrêter sur les particularités de l'épidémie cette année en termes de virus, d'efficacité de la vaccination et également d'évaluation de la mortalité. Diagnostic, traitement, prévention ou complications. Si vous avez des questions sur la grippe, sur les grippes, le numéro de Priorité Santé, 33 84 22 75 75. Et pour répondre à toutes nos questions avec nous en studio, professeur François Bricaire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue, ancien chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris, membre de l'Académie de médecine. Détecter, décrire, évaluer, mission de surveillance confiée à l'Agence de santé, Santé publique France. On va voir cela avec vous, docteur Sybille Bernard-Stocklin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes épidémiologiste chargé de la surveillance de la grippe à Santé publique France. Et puis, comment est-ce que ça se passe du côté du Sénégal? Nous joindrons tout à l'heure le docteur Bayam Niang, virologue chargé de recherche à l'Institut Pasteur. Le docteur Niang, responsable du Centre national de référence sur la grippe et les autres virus respiratoires à Dakar. Et en fin d'émission, vous retrouverez la chronique nutrition de Stéphane Besançon, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali, et nutritionniste.
Priorité santé sur RFI.
La grippe donc, maladie virale, courante, aiguë. Avant de décrire les symptômes, la prise en charge, professeur François Bricaire, petite mise au point, hein, car dans le langage courant, le nom de grippe, sous ce nom, on range en fait beaucoup de choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec la grippe. Tout simplement, quand on dit « je suis grippé », c'est pas du tout parce qu'on a la grippe la plupart du temps.
Dans la majorité des cas, effectivement, quand on dit qu'on a la grippe, c'est qu'on a une maladie virale à potentialité respiratoire qui s'exprime par des signes respiratoires, le nez qui coule en particulier, mais qui n'a rien à voir avec la vraie grippe qui est due à un virus bien particulier ou des virus bien particuliers qui sont les virus de la grippe.
Avec des symptômes, là encore, professeur Bricaire, bien particuliers. Justement, on va commencer pour que les gens se fassent la part des choses entre un bon rhume et une vraie grippe. Les symptômes, ces signes, c'est quoi précisément?
Alors, il y a des signes communs et puis il y a quand même des signes plus particuliers qui permettent de penser à la vraie grippe. Alors, les signes habituels des grippe, entre guillemets, c'est la survenue en général assez brutale des maux de tête, de la fièvre, de signes hauts, c'est-à-dire le nez qui se met à couler, les éternuements, et puis la toux. Et puis ces éléments peuvent éventuellement s'enrichir de signes plus respiratoires, c'est-à-dire une gêne à la respiration, une toux qui va s'accompagner d'une expectoration. Mais ce qui peut permettre dans tous ces éléments, qui sont, on va dire, d'une relative banalité, pour la vraie grippe, c'est d'abord la survenue beaucoup plus brutale. Ça vous tombe dessus, mais de façon extrêmement brusque, sévère, avec des courbatures, avec une fièvre qui est parfois plus élevée. Et puis, les signes sont en général suffisamment intenses pour qu'ils vous obligent à rester chez vous.
On est cloué au lit.
On est cloué au lit. Et ça, c'est la vraie grippe. Le rhume banal, le syndrome grippal standard, j'allais dire, vous permet d'aller travailler ou d'aller à des activités, ce que la vraie grippe, en général, ne permet pas.
Vous avez cité rapidement les courbatures. Comment expliquer qu'on passe justement de cet état fébrile à ce pas un problème d'articulation, mais vraiment, on le sent dans notre corps.
Oui, oui. Alors ça s'explique maintenant de façon peut-être un peu plus scientifique par le fait que quand on a une maladie virale, et surtout si elle est intense comme la grippe, l'organisme réagit et sécrète des substances qui sont elles-mêmes source de symptômes. Et en particulier, eh bien, ces courbatures sont le résultat de la sécrétion de substances chargées de nous défendre justement contre le virus. C'est un peu paradoxal, mais c'est ainsi.
Alors, un virus qu'on a attrapé en côtoyant quelqu'un qui était grippé, cette fameuse contagion. Alors, d'emblée, on rappelle les meilleurs moyens de se prémunir de la grippe. On va parler tout à l'heure de la vaccination, mais là, simplement, quand on a quelqu'un à la maison qui est grippé, qu'est-ce qu'on fait pour éviter soi-même d'attraper? Parce que la grippe, c'est assez contagieux.
Oui, la grippe, c'est très contagieux. C'est très contagieux par voie respiratoire, par voie aérienne, dit-on, et avec une transmission possible par la salive et tout ce qui va être indirectement de la salive, c'est-à-dire les mains, c'est-à-dire tous les objets qui peuvent être contaminés par de la salive. Alors, pour s'en prémunir, bon, il faut éviter, rompre cette contagiosité par les voies respiratoires. Alors évidemment, l'idéal, ça serait presque de porter un masque. Ça, les Asiatiques savent le faire. Nous, on a beaucoup de réticence, mais si on est un peu courageux, on peut le faire. Puis deuxièmement, c'est d'éviter de transmettre en toussant, en éternuant, devant une personne qui n'est pas encore atteinte. C'est d'essayer aussi d'éviter, quand on éternue, de le transmettre, c'est-à-dire de se moucher ou de s'éternuer dans son coude. Alors ça peut là aussi paraître un peu bizarre, mais c'est une meilleure façon que de le faire dans la main et ensuite de serrer la main de la personne qui est en face de vous. Bref, c'est un certain nombre de petites choses comme ça qui peuvent réduire le risque. Ça ne l'annule pas.
Alors, au niveau de la période de contagion, quelle période après le déclenchement des premiers symptômes, professeur Bricaire, quelle est la période justement de contagion?
Alors, à partir du moment où le virus nous a contaminés, il va y avoir une transmission qui s'exprime à peu près à 24 à 48 heures après la contamination. Et à partir de là, eh bien, la maladie va pouvoir apparaître, c'est la durée d'incubation. Et tant qu'on sera malade, tant qu'on aura des symptômes pendant plusieurs jours, on sera excréteur de virus et donc transmetteur potentiel.
Alors, est-ce que toute grippe nécessite une consultation médicale ?
Je répondrai plutôt par la négative. Non, à partir du moment où on sait que on est dans une période d'épidémie de grippe, à partir du moment où on se sent soi-même atteint, c'est la grippe. Il faut prendre les précautions qu'on vient d'évoquer pour éviter de transmettre. Il faut prendre peut-être quelques thérapeutiques, on en reparlera peut-être. Mais ce qu'il faut surtout, c'est éviter, alors je dirais d'aller se précipiter vers des consultations des urgences, d'encombrer les urgences et de réduire les possibilités d'action pour des maladies plus importantes.
Alors, grippe saisonnière en France, un dispositif spécial permet de surveiller l'épidémie. Docteur Sybille Bernard-Stoclin, Santé publique France s'en occupe. Est-ce qu'on peut dire simplement, on est le 25 février, où en est l'épidémie ?
Oui, tout à fait. Donc, à Santé publique France, nous collectons des informations toutes les semaines sur le niveau d'activité de la grippe, à la fois en médecine de ville ou à l'hôpital. Et cette semaine, nous observons donc depuis début février que le pic de l'épidémie semble avoir été atteint. C'est-à-dire que nous sommes sur la descente. Nos indicateurs d'activité grippale, que ce soit en médecine de ville ou à l'hôpital, montrent que l'activité diminue. Depuis maintenant plus d'une semaine. Donc on peut dire que probablement le pire est passé.
Alors, on a parlé d'une épidémie assez tardive. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, cette année, on a observé que la grippe a commencé à circuler début janvier. Quand on compare cette début d'épidémie par rapport aux deux années précédentes, elle était effectivement un peu plus tardive puisque les deux dernières années, la grippe avait commencé à circuler en décembre. Ceci dit, quand on regarde plus loin en arrière, on se rend compte qu'un début d'épidémie en janvier n'a rien d'exceptionnel. En fait, Dans un pays comme la France, avec un climat tempéré, la grippe survient chaque année entre novembre et mars. Parfois, elle est plus précoce, parfois elle est plus tardive, mais c'est tout à fait dans la norme.
Docteur Sybille Bernard-Stocklin, tout à l'heure, vous disiez un réseau qui vous fait remonter les informations, médecine de ville, médecine hospitalière. En fait, qui participe justement à ce travail de chiffrage et de remontée de l'information?
Donc en France, on a un très large réseau de partenaires qui participent quotidiennement à la surveillance de la grippe. En médecine de ville, on a un réseau de médecins qu'on appelle le réseau Sentinelle, de médecins généralistes, qui nous font remonter toutes les semaines le nombre de personnes qui ont consulté pour un syndrome grippal, le nombre d'entre eux qui ont été testés positifs pour un virus grippal, donc qui étaient réellement infectés par la grippe. Les associations SOS médecins nous font également remonter ces informations. Donc on a une idée de la part de la grippe dans les consultations chez un médecin généraliste pour un syndrome grippal. Aux urgences, à l'hôpital, nous récupérons des informations quasiment en temps réel sur le nombre de passages aux urgences pour un syndrome grippal et parmi ces passages aux urgences, combien se sont suivis par une hospitalisation pour grippe. Par ailleurs, nous collectons également des informations sur les formes les plus sévères à l'hôpital, sur les grippes qui sont admises en réanimation, donc pour des formes extrêmement sévères. Nous collectons également des informations sur les épisodes, les épidémies d'infections respiratoires, dont la grippe, dans les EHPAD, ce qui nous permet d'avoir une idée de la sévérité de l'épidémie parmi les personnes les plus fragiles, celles qui sont âgées de 65 ans, voire beaucoup plus.
Et tous les ans, il y a des chiffres sur la mortalité attribuée à la grippe. Comment est-ce que ces données sont-elles... Comment ces données sont-elles calculées ?
Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, donc en France ou dans d'autres pays de l'hémisphère nord, on observe une augmentation de la mortalité, quelle que soit la cause, pendant l'hiver, quand on compare par exemple à ce qui se passe en été. Pour expliquer cette augmentation de la mortalité, en fait, il existe donc plusieurs causes possibles. C'est le cas notamment des conditions météorologiques. On sait que le froid intense a tendance à être mortel. Mais également certaines maladies d'origine virale ou bactérienne, comme la grippe, mais d'autres en sont en cause aussi. Santé publique France, chaque semaine, collecte des informations sur les décès toutes causes, les conditions météorologiques et des données sur la circulation de ces différents virus, dont celui de la grippe. Et nous utilisons une méthode statistique, un calcul mathématique, qui nous permet d'estimer, donc à partir de ces décès toutes causes, ceux qui sont directement ou indirectement liés à la grippe. C'est donc le chiffre que nous communiquons toutes les semaines. La semaine dernière, nous communiquions sur un chiffre d'environ 2800 décès attribuable à la grippe depuis que la grippe circule.
Professeur François Bricard, quand on dit mourir de la grippe, ça veut dire quoi en réalité? D'un syndrome respiratoire aigu, c'est quoi le plus souvent?
Alors, il faut d'abord dire que le virus lui-même n'est pas le plus souvent responsable de la mortalité et que la mortalité de la grippe est le plus volontiers due aux complications, aux surinfections qui sont dues au virus de la grippe qui va favoriser la multiplication de bactéries par la suite. Et puis, il y a la responsabilité de la ce qu'on appelle des décompensations de certaines pathologies que les sujets fragiles et en particulier les personnes âgées ont. On va mourir dans les suites de la grippe, suite immédiate, parce qu'on a une insuffisance cardiaque qui va se décompenser, parce qu'il y a une insuffisance rénale qui va s'aggraver, etc. Et c'est tout cela qui conditionne la mortalité potentielle de la grippe.
Professeur Bricard, on en vient à la vaccination, l'importance de connaître chaque année la souche ou les souches en circulation. Pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs vaccins contre la grippe ?
Alors, c'est un des problèmes les plus difficiles concernant la grippe. Quand on parle d'une maladie infectieuse due à un agent infectieux, c'est souvent un agent infectieux bien particulier, précis, qui ne bouge pas. Si on parle du virus de la rougeole, c'est le virus de la rougeole, et il ne bouge pas. Et malheureusement, avec la grippe, il en est différemment, d'abord parce qu'il y a plusieurs virus déjà au départ, et que parmi ces virus, eh bien, il va y avoir des mutations, des changements quasi permanents qui vont au fur et à mesure du temps s'accumuler et compliquer le travail de préparation donc d'un vaccin. Ce qui veut dire que pour faire du vaccin contre la grippe, il faut déjà avoir plusieurs souches virales dans le vaccin. Et deuxièmement, il faut avoir des souches virales parfaitement adaptées aux mutations qu'on peut observer de par le monde.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a une part de hasard quand on décide de lancer en début de saison, le plus souvent c'est fin septembre, début octobre si je ne me trompe pas, les campagnes de vaccination? Est-ce qu'on y va un petit peu, excusez-moi l'expression, au pif?
Pas au pif, mais avec un coefficient, en tous les cas, d'incertitude qui n'est pas négligeable. C'est vrai, il faut préparer les vaccins. Il faut, pour préparer un vaccin, du temps. L'industrie a besoin de plusieurs mois pour préparer le vaccin. Donc, ça veut dire que l'Organisation mondiale de la santé, par les repérages qu'elle fait dans le monde des virus qui circulent, va faire une supposition en disant, eh bien, dans 6 mois... c'est ce type de virus qui a toutes les chances de déclencher un phénomène épidémique. Et à partir de ces données, les industriels vont fabriquer le vaccin. Alors il y a un degré de pari, on va dire, comme tous les paris, peut être bon. Et c'est ce qui se passe fort heureusement dans la majorité des cas. Et puis parfois, le pari est mauvais et on se trompe. Et donc, le virus déjoue les prévisions et on a une épidémie qui, à ce moment-là, n'est pas couverte ou mal couverte par le vaccin.
Docteur Sybille Bernard-Stocklin, pour des années très particulières, on emploie le terme de pandémie. Alors, qu'est-ce qui distingue une épidémie de grippe d'une pandémie de grippe?
Alors, en effet, les deux termes sont employés et sont très différents. Chaque année, on sait qu'on va avoir une épidémie saisonnière de grippe. Ces épidémies sont dues comme disait le professeur Ricard, différents virus grippaux, qui sont des virus qui circulent depuis beaucoup d'années chez l'homme, qui sont bien adaptés, qui circulent de manière cyclique. Quand on parle de pandémie grippale, en fait, c'est un phénomène qui est exceptionnel et qui se produit lorsque c'est un nouveau virus grippal émerge. Un virus que la population humaine n'a jamais rencontré et donc contre laquelle l'immunité de la population est très faible, voire inexistante. Ces phénomènes d'émergence de nouveaux virus grippaux se produisent naturellement tous les 20, 25 ans, parfois plus longs, parfois moins longs, mais se produisent régulièrement. Se traduisent donc par des pandémies, c'est-à-dire des épidémies qui sont d'une ampleur qui ne ressemble pas aux épidémies saisonnières. Déjà, elles se disséminent au niveau mondial très rapidement. Et elles vont se caractériser parfois par une mortalité très importante, une sévérité importante. Nous avons tous en tête la pandémie de la grippe espagnole en 1918, même si nous ne l'avons pas vécue, qui s'est traduite par des millions et des millions de morts à l'échelle mondiale. D'autres sont beaucoup moins sévères. Ça a été le cas lors de la dernière pandémie qui a eu lieu en 2009, liée au virus H1N1. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin d'une pandémie, donc une pandémie se traduit par donc une très grosse épidémie qui dure une saison, parfois deux, puis le virus en fait ne disparaît pas, il devient, comme la taille de la population immunisée grandit, il devient épidémique, ça devient un virus saisonnier. Et c'est ce qui se passe par exemple donc depuis 2009, le virus qui a émergé, le virus qu'on appelait de la grippe porcine H1N1, est devenu un virus saisonnier qui d'ailleurs circule cette année par exemple.
C'est pour ça qu'avec le temps il fait de moins en moins peur, on va dire.
Exactement, en fait la population développe une mémoire immunitaire contre ce virus qui se montre donc moins sévère que lors de la pandémie.
Vous restez avec nous, tout de suite on va prendre en ligne les auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et c'est tout d'abord une auditrice qui est en ligne de Tanzanie, de Dar es Salaam. Sandra, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Sandra, on vous écoute.
Ok, alors j'ai un petit bébé de 4 jours. Et avec les visiteurs qui viennent rendre visite au bébé, je veux savoir comment est-ce que je peux protéger mon nouveau-né de la grippe. Et au cas où mon bébé attrape la grippe, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est dangereux? Qu'est-ce que je dois faire?
Professeur François Bricker, est-ce qu'un nouveau-né est particulièrement exposé au risque de contagion de la grippe?
Un nouveau-né, comme un nourrisson, est effectivement exposé au virus de la grippe, j'allais dire comme tout un chacun, c'est-à-dire que, comme l'a dit cette auditrice, il suffit que des visiteurs viennent porteuses du virus pour le transmettre au nourrisson qu'elle vient admirer. Alors, ça devient difficile d'assurer une bonne protection dans la mesure où on sait qu'à cet âge-là, on ne vaccine pas pour... Il y a d'autres priorités vaccinales que celle de la grippe. Deuxièmement, il faut bien considérer que comme on n'est pas certain que le vaccin sera parfaitement efficace, c'est pas une protection absolue pour un sujet qui est quand même considéré comme fragile. Alors je dirais que les meilleures préventions, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire de mettre une barrière entre le virus transporté par les adultes et l'enfant. Donc, peut-être de demander en période d'épidémie de grippe d'éviter les visites ou de les réduire. C'est la première chose. Deuxièmement, sinon, ça serait l'idéal de mettre un masque. Et puis, toutes les précautions d'hygiène.
Se laver absolument les mains, de toute façon, éviter de couvrir ce nouveau-né de bisous, on va dire, tout simplement.
C'est la base. La catastrophe.
Donc, de la tendresse pour ce bébé, mais peut-être à distance. Et puis, si jamais... Est-ce que vous avez eu, vous, par exemple, en consultation, des tout jeunes enfants qui avaient contracté la grippe?
Alors, j'ai eu la chance à un moment donné de mon existence d'être pédiatre, je ne le suis plus, donc je ne vois plus d'enfants, mais les pédiatres voient effectivement un certain nombre d'enfants, et il faut savoir quand même que la grippe est agressive pour les enfants, font partie des sujets à risque.
Donc surveillance particulière quand on voit qu'un bébé a un syndrome grippal.
Absolument.
Voilà Sandra pour la réponse du professeur Bricaire. Vous avez d'autres points d'explication à demander ou ça va, la réponse est complète?
Non, la réponse est complète. Merci.
Très bonne journée à vous Sandra Dar es Salaam. On va tout de suite prendre en ligne Ousmane qui est à Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonjour Ousmane.
Bonjour.
On vous écoute Ousmane.
Comme ça fait des années, ma grippe est toujours accompagnée avec des paludismes.
Mm-hmm.
Ma question est de savoir si y a-t-il une corrélation entre les deux.
Mm-hmm.
Il y a une corrélation entre les deux, la grippe et puis le paludisme.
Comment?
Si tel est le cas.
Oui.
Si tel est le cas, y a-t-il une prévention?
Ousmane, j'ai une question à vous poser. Quand vous dites j'ai le paludisme en même temps que la grippe. C'est un médecin qui vous dit ça ou c'est que vous avez fait la goutte épaisse, donc vous savez que vous avez du paludisme et vous avez un syndrome grippal? Vous avez aussi on vous a fait aussi un test pour savoir si vous aviez la grippe?
Non, je n'ai pas fait une goutte épaisse au fait, mais j'ai fait ce constat en moi. Ça fait des années. À chaque fois, ma grippe est toujours accompagnée avec le paludisme.
Professeur Bricaire, comment est-ce qu'on peut distinguer justement les symptômes du paludisme de ceux de la grippe?
Oui, alors on peut remercier Ousmane de sa question parce qu'elle est fondamentale. La circulation, l'existence du paludisme dans ces zones d'Afrique est telle qu'on peut faire régulièrement, malheureusement, un certain nombre de crises. Et la symptomatologie, les signes cliniques qui expriment le paludisme sont souvent un petit peu proches de ce que donne la grippe, c'est-à-dire d'abord et simplement la fièvre, puis les maux de tête, et puis les courbatures dont on parlait tout à l'heure. Bref, comme on dit, le diagnostiquer un paludisme quand on est en période de grippe, ça devient compliqué. Alors, parfois, effectivement, il y a les deux en même temps. C'est possible, c'est pas la règle absolue. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a une obligation de différencier une crise de paludisme, ce qui est fondamental parce que là, il y a un traitement nécessaire avec une potentialité de sévérité, sinon importante, d'une grippe.
Parce qu'on ne l'a pas dit depuis le début de l'émission, en cas de grippe, finalement, la réponse est assez limitée. Éviter de faire trop monter la température, donc avec par exemple du paracétamol. Mais en fait, on utilise des médicaments contre la grippe que dans certains cas bien particuliers.
Oui, les thérapeutiques anti-grippe, j'allais dire spécifiques, c'est-à-dire qui sont vraiment actives contre le virus de la grippe, il n'y en a pas beaucoup, il y en a un, il est utilisé que de temps en temps. Et que dans la majorité des cas, cas, même si, encore une fois, la grippe est potentiellement source de complications, voire de mortalité, quand même une maladie fréquente, banale, qui se passe très bien et que sans thérapeutique très particulière. En revanche, en matière de paludisme, là, on ne plaisante pas, il faut impérativement faire un diagnostic et de donner un traitement, et un traitement efficace, un vrai.
Ousmane, quand vous avez justement ces crises de paludisme, vous prenez un traitement ?
Ah oui, bon, je fais de traitement.
Pardon ?
Oui, j'ai dit je fais de traitement de paludisme.
Vous faites le traitement. Et quand vous allez justement prendre votre traitement du paludisme, il est prescrit par qui ? Vous allez à l'hôpital ? Vous allez voir un médecin ? Où est-ce que vous trouvez les médicaments ?
Au fait, auparavant, quand j'atteins comme ça, la grippe comme ça, là, auparavant, je faisais un test de palu.
Oui.
Suivi d'un traitement de médecin.
Oui.
Récemment, comme je suis trop penché sur le médicament naturel, là, une fois que je commence à sentir le cessement à moi, je commence à faire le traitement naturel.
Mais peut-être qu'il faut quand même refaire un test pour bien vérifier que c'est une crise de palu et prendre le vrai traitement. Vous dites traitement naturel, c'est quoi ?
La plante, là.
L'artémisine ?
Voilà, médicament naturel, là.
Mais vous dites naturel, ça veut dire que vous le prenez sous quelle forme ? Sous forme de tisane, de décoction ?
Non, des tisanes.
Des tisanes. Ça veut dire que vous ne prenez plus les cachets qui sont recommandés par les médecins si vous alliez justement faire le test sanguin ?
Non, non, non.
Professeur Bricaire, qu'est-ce que vous pouvez dire à Ousmane à ce sujet ?
Oui, alors il faut faire très très attention à ces médications naturelles à base de tisane. Le traitement du paludisme repose sur un certain nombre de substances, dont l'artémisinine, qui est un médicament remarquable, mais à condition qu'il soit parfaitement dosé. Or, maintenant, malheureusement, on a tendance à conseiller, en Afrique en particulier, d'utiliser des feuilles de tisane qu'on cultive chez soi ou dans des endroits plus ou moins recommandés et qui contiennent très très peu du produit actif. Donc, autrement dit, en faisant de la tisane, et on sait toutes les incertitudes qu'il y a sur la façon dont on peut faire une tisane, eh bien, on a dans ces tisanes une quantité infime de produits, ce qui veut dire qu'on n'est pas traité. Et si à l'âge adulte, en Afrique, on est plus ou moins protégé à force d'avoir des crises de paludisme, il faut savoir que chez les enfants, il n'en est absolument pas de même et qu'un enfant va pouvoir mourir très vite de paludisme simplement parce qu'il a reçu de la tisane et pas du produit actif avec les sirops ou comprimés nécessaires.
Voilà Ousmane pour cette petite explication du professeur Bricaire. On vous souhaite une très bonne journée à Abidjan. Autre auditeur que nous avons tout de suite en ligne, c'est Herman. Il est en ligne du Cameroun. Bonjour Herman.
Bonjour Caroline et bonjour à vos spécialistes en studio.
On vous écoute Herman.
Oui, j'ai trois préoccupations. Mm-hmm. La première, est-ce qu'en matière de grippe, il existe plusieurs types ? Si oui, est-ce qu'il s'est varie en fonction des régions et des pays. La deuxième,
oui.
Y a-t-il un âge particulier au cours de laquelle la grippe est beaucoup plus violente ?
D'accord. Alors, oui, encore une peut-être ?
Et enfin, la troisième.
Alors, je vous écoute.
Et enfin, la troisième. Est-ce que les nourrissons sont exempts de la grippe ?
Alors, sur les nourrissons, on a répondu tout à l'heure à Sandra en disant qu'il n'y avait pas de vaccination recommandée pour les nourrissons, mais que bien sûr, les nourrissons étaient susceptibles de le contracter. Donc, il fallait faire attention avec les personnes qui viennent à la maison, si ces personnes sont un petit peu malades, éviter absolument le contact avec le bébé. Enfin, pour toutes les maladies, c'est la même chose de toute façon, hein, pour des tout petits bébés. Maintenant, sur les différents types de grippe, docteur Sybille Bernard-Stocklin, on a parlé tout à l'heure de plusieurs virus qui peuvent cohabiter la même année. Est-ce qu'il y a une dimension régionale ? Est-ce que certains virus sont plus présents dans certaines régions que d'autres ?
Alors effectivement, il existe plusieurs virus grippaux. À l'heure actuelle, on considère qu'il y en a quatre qui circulent. Aucun d'entre eux n'est confiné à une région géographique particulière. Ils circulent de manière cyclique, c'est-à-dire qu'il y a des années où il y en a qu'un seul qui circule dans une région, d'autres années où ils co-circulent, par exemple. Mais ce qu'on observe, c'est qu'en fait, à l'échelle de la planète, les différents virus qui circulent peuvent être très différents. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui va circuler en France métropolitaine actuellement ne va pas forcément circuler exactement de la même manière en Afrique, en Australie ou aux États-Unis.
Ça veut dire que, par exemple, si je me fais vacciner en France, il vaut mieux le faire avec à l'esprit, je ne vais pas partir m'expatrier pendant un an, on va dire, dans l'hémisphère sud. Mieux vaut que j'ai le vaccin qui corresponde à ma localisation de vie.
Alors, il existe, comme le virus de la grippe est très dépendant des conditions météorologiques et que évidemment entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, l'hiver n'est pas du tout au même moment. Il existe deux vaccins contre la grippe différents, celui pour l'hémisphère nord et celui pour l'hémisphère sud. En France, quand on veut se faire vacciner contre la grippe, donc entre octobre et janvier, nous n'avons à notre disposition que le vaccin disponible pour l'hémisphère nord. Ceci dit, le vaccin contre la grippe, il contient 4 souches vaccinales qui couvrent les 4 virus grippaux qui circulent à un moment T. Même si on se fait vacciner en octobre en France avec le vaccin contre l'hémisphère nord et qu'on va en voyage en Afrique du Sud ou en Australie, déjà, il y a des chances pour que le virus de la grippe ne circule pas au même moment puisqu'il y a des différences dans le timing de la circulation de la grippe. Mais en plus, il y a quand même des chances pour que le vaccin de l'hémisphère nord couvre au moins en partie les virus qu'on pourrait rencontrer en voyage. Quoi qu'il arrive, il est recommandé aux personnes qui voyagent de se faire vacciner contre la grippe au moment où elles partent en voyage.
Alors, autre question d'Hermann, je vous la pose à vous, professeur François Bricard, même si on y a partiellement répondu. C'est sur les périodes de la vie où on est plus vulnérable, les bébés, on en a parlé. Oui. D'autres périodes, particulièrement le grand âge. Oui. C'est pour ça qu'en France, la recommandation de la vaccination après 65 ans, c'est bien ça?
C'est exact. 65 ans, c'est l'âge qu'on se donne comme virage pour avoir plus de risques vis-à-vis du virus de la grippe. Disons que plus on avance dans l'âge et plus on est en situation de fragilité. Donc plus on va vers un grand âge qui est quand même de plus en plus fréquent dans nos contrées où on a l'avantage de vivre de plus en plus vieux, c'est sûr que c'est plus grave à 85 ans ou à 90 ans qu'à l'âge de 65 ans. Mais c'est la limite et c'est impératif d'assurer sa protection parce qu'on est fragile. Et puis il faut dire qu'il y a aussi des personnes fragiles à un âge inférieur à 65 ans, ce sont tous les adultes qui ont des pathologies respiratoires, pathologies cardiaques, toute susceptibilité d'immunodépression qui font qu'on risque d'attraper la grippe avec potentiellement des formes compliquées ou sévères.
Voilà, Hermann, pour la réponse à vos questions. On vous souhaite une très bonne journée au Cameroun. J'ai une autre question d'Ibrahim, qui est en région parisienne, et qui nous demande, c'est important de le dire, est-ce que la grippe chez les femmes enceintes peut représenter des risques pour le bébé, professeur Bricard?
Oui, alors la grippe de la femme enceinte, c'est quelque chose de très important, parce que la femme en période de grossesse est plus susceptible de faire une forme sévère de grippe. Donc elle peut attraper la grippe, premier point, et en plus elle peut faire une forme beaucoup plus grave de grippe. Alors déjà pour elle-même, avant de parler des risques pour l'enfant à naître, déjà pour elle-même, on a des formes particulièrement intenses chez la femme enceinte. C'est la raison pour laquelle on vaccine les femmes enceintes. Pendant très longtemps, on a dit « Oh, attention, est-ce qu'il ne faut pas s'abstenir de la vaccination ?» Cette période est terminée. Quel que soit le trimestre de la grossesse, c'est une indication à protéger, donc à vacciner.
Alors, on continue de parler de la grippe et on part tout de suite pour le Sénégal.
RFI.
Et on retrouve sur place le docteur Mbayam Niang. Bonjour.
Bonjour.
À Dakar, vous êtes virologue chargé de recherche à l'Institut Pasteur. Docteur Niang, est-ce que, comme en Europe et en France, le Sénégal connaît ces fameuses épidémies de grippe saisonnière?
Oui, Il faut noter que le Sénégal fait partie du réseau mondial de surveillance de la grippe depuis 2016. Et que ce réseau, comme on vient de le dire au début de l'émission, il fait le repérage des virus qui circulent au niveau du pays. Et le Centre national de référence de la grippe, qui est hébergé par l'Institut Pasteur, dans le cadre de ses missions de surveillance, d'alerte, analyse les données de la grippe ici de son réseau de sites centenaires. Et ce réseau de sites est réparti à travers le réseau sénégalais. Et ce que nous avons observé à travers ce réseau, donc cette surveillance, et que le taux de détection des virus grippaux au Sénégal sont très variables d'une année à l'autre. À titre d'exemple, si nous prenons ces dernières années, de 2016 à 2018, nous avons observé que les taux de détection de 17% en 2016 avaient une circulation quasi exclusive des virus H3N2, alors qu'en 2017, ils étaient de 16% et on avait observé une co-circulation majoritaire du sous-type H1N1 et du type B. Et en 2018, on a eu une 27% avec une prédominance des H1N1 et du type B. Pour vous dire que les virus grippaux circulent au Sénégal et réellement de façon réellement diversifiée.
Est-ce que des campagnes de vaccination contre la grippe sont organisées, Dr Niang?
Il faut dire que au Sénégal, nous ne disposons pas réellement de programme de vaccination. En termes de prévention, ce qui est fait, c'est juste on met l'accent sur la sensibilisation, sur les mesures d'hygiène, comme le lavage des mains, l'utilisation des mouchoirs quand on tousse ou on éternue, et ceci pour éviter réellement le risque de transmission et aussi de protéger son entourage. Mais il faut noter que le vaccin quand même est disponible au niveau du territoire et généralement il est recommandé par le ministère aux pèlerins qui vont effectuer le Hajj à la Mecque.
Pour les pèlerins de la Mecque, il n'y a pas également des recommandations pour des populations jugées particulièrement vulnérables?
Par exemple, nous, ce qu'on a vu à travers notre réseau de surveillance, c'est que les enfants, les groupes d'âge réellement de 0 à 5 ans sont très affectés par la grippe. Et donc ça, c'est des recommandations que nous faisons, mais il faut dire qu'il n'y a pas réellement un programme de vaccination.
Sur la sensibilisation, tout à l'heure, l'un de nos auditeurs nous en parlait, cette nécessité bien de distinguer des syndromes de la grippe de ceux du paludisme, hein, parce que bien sûr, dans les deux cas, la prise en charge, le traitement est très différent. Est-ce que c'est quelque chose aussi sur lequel il y a une campagne de sensibilisation, Dr Niang?
C'est vrai que nous, ce qu'on a mis en place, on a essayé de faire évoluer notre réseau de surveillance de la grippe en l'étendant sur une surveillance syndromique. Et dans cette surveillance syndromique, nous avons intégré la surveillance du paludisme et même que des arboviroses, parce que ce sont tous des maladies fébriles. Donc nous, maintenant, notre porte d'entrée, c'est la surveillance des fièvres. Et dans cette surveillance, nous mettons à part en exergue réellement le palud. Et c'est ce qu'on a vu depuis qu'on a commencé à surveiller le palud en même temps, qu'il y a beaucoup de fièvres qui étaient étiquetées réellement palud, qui ne le sont pas réellement. Donc, ça a mis vraiment en exergue que la grippe existe au Sénégal et que donc les virus grippaux circulent.
Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de priorité santé. Docteur Mbayam Niang, vous êtes également responsable du Centre national de référence sur la grippe et autres virus respiratoires à Dakar.
RFI à Dakar, 92 FM.
Et on se retrouve pour notre conclusion en compagnie de nos deux invités, docteur Sybille Bernard-Stocklin, professeur François Bricaire. Professeur Bricaire, j'ai une question provocatrice. Qu'est-ce que vous répondez à un malade de la grippe qui dit « Docteur, je veux des antibiotiques ».
Ah, écoutez, il n'y a a priori pas de justification à donner des antibiotiques contre une maladie virale en général et donc contre la grippe en particulier. En revanche, quand il y a des surinfections, ce qui peut arriver, on l'a évoqué tout à l'heure, à ce moment-là, ce sont des bactéries qui profitent de la situation pour proliférer, à ce moment-là, il y a une justification à donner des antibiotiques.
Alors, avec un gros encombrement des bronches, avec des glaires, etc.
En général, une reprise de la fièvre, une accentuation de signes respiratoires qui permettent aux médecins ou éventuellement aux malades de le repérer qu'il y a un problème de surinfection. Alors, il y a des personnes qui font davantage de surinfection, c'est les gens qui ont des problèmes de bronchopathie, ces gens-là, il y a une justification à donner des antibiotiques. Mais il ne faut surtout pas se précipiter pour les donner au bon moment.
Alors, à compter de l'automne prochain, les personnes pour qui la vaccination est recommandée pourront aller le faire dans toutes les pharmacies de France. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne chose, professeur Bricaire ?
Alors, à titre personnel, je réponds oui. Je pense que si on veut qu'on vaccine davantage en France, et on en a besoin, eh bien, il faut que tout le monde puisse collaborer de façon justifiée et appropriée à cette vaccination. Donc, que les pharmaciens vaccinent, je suis tout à fait pour.
Alors, il y a des travaux, la recherche travaille. Tout à l'heure, on a bien expliqué pourquoi tous les ans le vaccin changeait et aussi pourquoi il y avait plusieurs vaccins. Les chercheurs travaillent sur la mise au point éventuelle d'un vaccin universel. Ça vous semble utopique ou ça vous semble crédible ou impossible du fait même de la nature, de la structure du virus, des virus ?
Non, impossible sûrement pas. Difficile, incontestablement oui. Ce vaccin, ça fait déjà beaucoup d'années qu'on le cherche, sans succès jusqu'à présent, mais il y a eu des progrès, des avancées, puis il y a des orientations. C'est-à-dire que, en particulier, pour être simple, il y a une structure commune à l'ensemble de ces virus de grippe dont on a parlé qui sont si différents, ben, il y a quand même quelque chose de commun contre lequel on pourrait trouver un vaccin. Et à ce moment-là, on aurait le vaccin universel.
Tout à l'heure, on parlait de pandémie avec vous, docteur Sybille Bernard-Stoclin. C'est ma dernière question. Est-ce qu'il faut avoir peur de la grippe ou est-ce qu'on a aujourd'hui vraiment tous les moyens de se prémunir, de se protéger pour éviter justement des complications ?
Alors, je pense qu'il y a deux réponses à votre question. La première, c'est que sur la grippe saisonnière, nous avons un vaccin qui est certes imparfait, mais qui reste la meilleure manière que nous ayons de nous en protéger. Aujourd'hui, la couverture vaccinale, c'est-à-dire le nombre de gens qui sont ciblés par les recommandations vaccinales et qui se vaccinent, chaque année reste trop faible. L'OMS a une cible de 75% des personnes ciblées par les recommandations vaccinales qui se feraient vacciner. Nous en sommes très loin. Nous en sommes au mieux à 50% chez les 65 ans et plus. C'est trop peu. Et je pense qu'on tout mécanisme qui permet de simplifier le parcours de vaccination est une bonne nouvelle. Et je rejoins le professeur Bricaire sur la vaccination par les pharmaciens. Mais on peut faire mieux. On doit faire mieux. Et nous y travaillons. En ce qui concerne une future pandémie grippale, les spécialistes de la grippe n'ont aucun doute sur le fait que nous allons avoir une prochaine pandémie grippale. Quand on ne le sait pas, sous quelle forme, nous ne le savons pas. Il est toutefois nécessaire de s'y préparer. Et nous nous y préparons, mais nous pouvons, nous devons continuer à nous en préparer et à faire mieux sur ce plan.
Déjà avec les dispositifs de surveillance et d'observation pour repérer justement si quelque chose est un petit peu un caractère exceptionnel. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé. Professeur François Bricaire, je rappelle que vous êtes ancien chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, membre de l'Académie de médecine. Et merci à vous, docteur Sybille Bernard-Stoclin, épidémiologiste chargée de la surveillance de la grippe à Santé publique France. On parle alimentation et santé maintenant avec vous, Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète au Mali. Et on va parler de l'une des boissons les plus consommées au monde. Il s'agit du café. Petit rappel d'abord d'où vient le café et tout simplement comment est-ce qu'on le prépare ?
Alors le café vient d'un arbuste, le caféier, qui est cultivé majoritairement en Amérique latine et en Afrique. Alors il y a deux grandes variétés de caféier qui sont cultivées, c'est Coffea arabica qui donne ce qu'on connaît tous, l'arabica, et puis le Coffea sanephora qui va donner l'autre variété de café qui est le robusta. Alors c'est une boisson qui est consommée depuis très très longtemps, depuis pratiquement le 13e siècle, et qui va être préparée à partir du grain de café récolté. Alors la méthode la plus ancienne, c'est une méthode par décoction, qui consiste à mélanger donc la poudre de café avec de l'eau bouillante. Mais aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Il y a beaucoup de formes de consommation de café. Ça va être le café soluble en poudre, comme le Nescafé. Ça va être aussi le grain moulu, qui peut être préparé à l'aide d'une cafetière à piston, à filtre ou à l'italienne. Et enfin, ce qui est très à la mode aujourd'hui, c'est les espressos, qui nécessitent là une machine à haute pression pour pressuriser ce café.
Alors, quels sont les principaux éléments que l'on retrouve dans ce fameux café que l'on boit?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est durant la torréfaction du grain de café, c'est-à-dire le rôtissage du grain, qu'il y a pas mal de réactions chimiques qui vont se faire et que des composés intéressants pour l'organisme vont être produits. Alors, il y a tout d'abord le plus connu, que tout le monde connaît, c'est la caféine. Ensuite, il y a les alcools diterpènes et enfin les antioxydants, dont les acides phénoliques, tels que les acides caféiques et chlorogéniques, qui auront tous des effets antioxydants, en fait, donc protecteurs de pas mal de pathologies. Et il faut bien rappeler que la teneur en café de ces trois composés va varier quand même fortement, à la fois sur le type de grain, le café utilisé, mais surtout la torréfaction et enfin la méthode de préparation. Par exemple, le café va contenir des micronutriments comme la vitamine B2, B3, B5, ça va être plutôt dans l'expresso, tandis que le café infusé va plutôt contenir de la vitamine B2 et de la vitamine B5. Donc suivant le mode de préparation, on va avoir plus ou moins de vitamines, plus ou moins de minéraux et plus ou moins de composés phénoliques.
Et par quel côté le café, on peut dire, est bon pour la santé?
Alors aujourd'hui, il y a énormément d'études qui sortent sur les bienfaits du café. Alors, ces bienfaits vont se faire à la fois par une combinaison de la caféine et des antioxydants qui permettraient d'avoir un effet qui vont réduire le risque de maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, de goutte, mais aussi de calcul à la vésicule biliaire. La caféine présente aussi un effet stimulant qui va permettre d'augmenter la concentration et la vigilance, qui peut améliorer les performances au travail et dans la vie quotidienne.
Alors, du côté des bons côtés, maintenant des mauvais côtés, quel risque associé à cette consommation de café, Stéphane?
Alors, la caféine, on a vu des bons côtés. Le mauvais côté, c'est que cette augmentation de la vigilance, c'est-à-dire cette excitation, veut dire que ça peut avoir des impacts sur le sommeil. Donc, on sait aujourd'hui qu'il faut faire extrêmement attention pour pas perturber complètement le sommeil parce qu'il y a un effet sur le système nerveux central. On sait aussi qu'au-dessus de 400 mg par jour, le café peut augmenter les pertes de calcium, donc aggraver, on va dire, une ostéoporose. Et au-dessus de 575 mg par jour, le café a un effet diurétique, c'est-à-dire de perte d'eau, donc peut conduire à la déshydratation. Et enfin, le café contient des tanins, mais c'est un peu pareil que pour le thé. Donc, il faut éviter, quand on a une alimentation, on veut récupérer des minéraux, notamment du fer, de consommer en même temps, parce qu'il va y avoir un effet autrement de chélation. Donc, ça ne veut pas dire que c'est négatif sur toute la journée, mais il faut éviter de consommer le café au moment où on consomme des minéraux pour que ceux-ci puissent être absorbés.
Alors, vous nous avez parlé de milligrammes. On va peut-être maintenant parler à des petits conseils en tasse, ce qui est pour la plupart du temps le mode d'emploi pour ce café. Vos recommandations justement pour les auditeurs, Stéphane?
Alors la première déjà, c'est parce qu'on a parlé du sommeil, c'est de rappeler qu'il y a un moyen très simple de contourner ce problème, c'est de pas consommer de café 4 à 6 heures avant d'aller dormir. Ça permet déjà d'éviter l'effet sur le sommeil. Après, sur l'effet dose, on va dire, les recommandations aujourd'hui, c'est 400 mg par jour. Alors ça parle à personne, mais ce qui parle, ça va être 3 à 4 tasses de café moulu, 4 à 5 tasses de café instantané, c'est le café en poudre, ou alors à peu près 5 espressos par jour. Ça, c'est les quantités maximales.
C'est beaucoup,
pas les
quand
quantités
même,
recommandées. On est au maximum, c'est-à-dire que si on descend en dessous de ça, 2-3 tasses, on est sur des bonnes choses. Là, on aura l'effet bénéfique sur la santé, on n'aura pas l'effet négatif. Alors, il faut bien noter aussi que les quantités de café doivent être revues à la baisse pour des populations, ce qu'on appelle spécifiques entre guillemets. C'est les femmes enceintes, c'est les femmes allaitantes et les personnes, bien sûr, qui présentent une hypertension ou encore les adolescents, parce que là déjà on a des problèmes avec le sommeil, si on rajoute des grandes consommations de café, ça va être très problématique. Il y a aussi un dernier effet qu'il faut faire attention, qui est totalement indirect, on le retrouve avec le thé et d'autres boissons, c'est dans les pays, comme sur beaucoup de pays africains par exemple, où on rajoute des quantités énormes de sucre dans le café, plus on va consommer de café, plus on va consommer de sucre, et on peut arriver avec 4-5 cafés par jour à des doses de sucre consommé et de calories très importantes. Et là encore, un conseil très simple pour réduire ça, il suffit de consommer son café sans sucre ou avec très très peu de sucre.
Moi personnellement je préfère avec du sucre, mais en tout cas je n'ai pas de très bons conseils. Merci beaucoup Stéphane Besançon. Je rappelle que vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète au Mali. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. À Cétoul Samaké, Ophélie Lassène, Baptiste Madinier, Didier Bleu. Demain, nous parlons des rêves, les raconter, les comprendre. Et on attend, bien sûr, vos appels. Appelez-nous, racontez-nous de quoi sont peuplées vos nuits. 33 84 22 75 75 et sur la page Facebook de l'émission. À demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les heureux retraités, assurez dès maintenant vos vieux jours avec l'assurance retraite. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.